Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est clair. 50e jour de combat et Vladimir Poutine en passe de remporter sa première vraie victoire militaire avec la prise de Mariupol. Mais à quel prix ? L'Info C'est clair est intitulé Ukraine, reddition, viol et génocide. Isabelle Lasserre, bonjour, vous êtes correspondante diplomatique au Figaro, vous avez été correspondante en Russie, vous êtes auteur de Macron le disrupteur, la politique étrangère d'un président anti-système, c'est aux éditions de l'Observatoire. Mariam Pirzadeh, vous êtes journaliste à France 24 et Michel Olagareille, vous êtes expert sur les questions de défense, vous avez dirigé le Centre des hautes études militaires. Merci de participer à cette émission en direct. Donc Mariupol sur le point de tomber, mais Mariupol qui ne veut pas capituler. Je vous propose de regarder ce reportage à Mariupol de Stéphanie Pérez et Luc Lacroix.
Depuis plusieurs heures, la télévision d'État russe diffuse ces images. Des dizaines de militaires ukrainiens qui, selon les commentateurs, se sont rendus aux forces pro-russes à Mariupol. Plusieurs groupes avancent les mains en l'air. Certains militaires blessés sont soit épaulés, soit transportés en civière. Des redditions qui auraient lieu dans le dédale du complexe industriel de Mariupol, dernière poche de résistance des soldats ukrainiens dans la ville. Ces dernières heures, l'armée russe et ses alliés séparatistes les ont encerclés. Carte en main, le commandement annonce la prise totale de Mariupol comme imminente. Mariupol sur le point de chuter, le maire de ce port stratégique rejette les affirmations russes, alors que la ville est détruite à 90% et que les combats font toujours rage.
Isabelle Lasserre, Vladimir Poutine est en passe d'avoir sa première vraie victoire militaire après 50 jours de guerre, ça y est. C'est le trophée qu'il veut exposer d'ailleurs pour le 9 mai, dont on dit beaucoup que c'est la date pour célébrer la victoire de l'armée russe sur l'Allemagne nazie.
En tout cas, quand Mariupol sera officiellement tombé, c'est-à-dire intégralement tombé, ce sera la première victoire militaire de Vladimir Poutine, puisqu'il avait essayé au début de prendre Kiev et éradiquer le gouvernement, il n'a pas réussi. Ensuite, il a essayé de s'emparer des villes du Nord, il n'a pas réussi. Et c'est la première véritable grosse ville symbolique, à la fois au niveau stratégique, au niveau politique, au niveau du désir de vengeance, parce que déjà en 2014, les forces russes avaient essayé de s'emparer de Mariupol et ils avaient dû renoncer. Donc c'est vraiment la première victoire militaire ce serait la première victoire militaire de la Russie. Par contre, c'est une chose de prendre Mariupol et ce sera peut-être une deuxième chose de la conserver. Parce que on peut imaginer que les forces ukrainiennes, si elles ne sont pas toutes engagées dans la bataille du Donbass qui s'annonce très difficile pour elles et très violente, pourront basculer dans une guerre de guérilla à Mariupol et harceler systématiquement les forces russes. Donc, encore une fois, patience.
Michel Olagareille, ça veut dire que cette armée russe qui n'y arrivait pas jusqu'à présent, maintenant qu'elle est recentrée, qu'elle est concentrée sur le Donbass, ça y est, elle atteint des objectifs militaires. Elle se met à remporter des victoires.
Oui, est plus dangereuse. On peut davantage dire, parce que Mariupol est tombé. Mariupol est tombé déjà depuis un certain temps. Il y a des réduits qui résistaient. Mais on dirait peut-être que c'est la première non-défaite de Poutine. Ah. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'a essuyé que des défaites et des revers. Il est obligé de redéployer son armée, il est obligé de réorganiser son haut commandement. Enfin, c'est extraordinaire tout ce qu'il est obligé de faire. C'est pour ça que ça prend un certain temps. C'est pour ça que les forces de renfort pour attaquer le Donbass ne sont pas encore parvenues, parce qu'il a fallu les retrouver, les retirer, les recompléter dans le Nord, leur redonner le moral, ce qui n'est pas simple, les réorganiser pour les engager. Comment ? Alors, quand on voit à Mariupol, il ne restait plus que quelques poches de résistance. Nous notons qu'il semble que les soldats qui se soient rendus soient des fusiliers marins, soit appartiennent en tout cas à la marine ukrainienne, et non pas au bataillon Azov, qui semble-t-il tienne l'usine Azovstal. Bataillon Azov, c'est quelque chose d'extrêmement symbolique, puisqu'ils sont catalogués comme néo-nazis par les Russes. Et ceux-là, je serais très inquiet sur leur sort si un jour ils se rendaient, ce qui n'est pas certain du tout. Donc il y a là une crispation assez extraordinaire. Il faut voir aussi ce que vivent ces soldats. Des soldats qui se rendent en unité entière, c'est terrible pour eux. c'est aussi terrible pour la population ukrainienne.
Justement, la population ukrainienne, Mariam Pirzadeh, la ville est dévastée à 90%. Vladimir Poutine s'attendait à arriver en libérateur avec son armée. Il ne s'attendait certainement pas à une telle résistance. Mais je veux dire, nous-mêmes, moi-même, il me semble que... Est-ce qu'on ne ferait pas ville ouverte, drapeau blanc? On est surpris par la volonté acharnée du peuple ukrainien à résister, à ne pas rendre les armes, à mourir sous les bombardements russes.
Bah, les soldats ukrainiens, c'est ce qu'ils disent, on va se battre non pas jusqu'à la mort, mais jusqu'à la victoire, ça veut tout dire. Il y a une vraie résistance, effectivement, auprès de la population. Tout le monde est mobilisé, les hommes, certaines personnes qui étaient parties en Pologne reviennent, sont revenues pour pouvoir combattre contre les Russes, bien sûr. Mariupol, c'est une ville martyr, on la compare à Alep en Syrie, à ce qui s'est passé avec le siège d'Alep lorsque l'artillerie russe a bombardé ces civils. Mariupol, c'est le symbole de cette Ukraine qui résiste. C'est le symbole de la dévastation, enfin de ces civils qui connaissent le pire. On a tous en tête ces images qui nous ont marqué de la maternité. Cette femme qui est évacuée sur un brancard, qui est enceinte, qui après est décédée. Le théâtre de Mariupol où les civils vont se réfugier. Beaucoup de personnes âgées, beaucoup de femmes avec des enfants. Impossible d'avoir un bilan définitif. Donc, bien sûr, Mariupol, c'est pour nous cette résistance ukrainienne et c'est aussi le pire de ce que peuvent faire les Russes dans ce pays.
Alors, on a notre journaliste, hein, Luc Lacroix, qui suit cette guerre côté pro-russe. Hein, et donc, il a accompagné les pro-russes, c'est du journalisme, dans la prise de Mariupol. Et en fait, il s'est aperçu que nombre de soldats étaient des soldats tchétchènes. On va regarder cet extrait de ce reportage de Luc Lacroix, qui est donc avec son équipe. On le regarde.
Un soldat séparatiste pro-russe nous accompagne, mais ici, ce sont les Tchétchènes qui combattent. Ils tiennent le quartier. Un de leurs chefs accepte de nous parler.
On ne ressent pas la peur. C'est pour cela que l'on est mobile et que l'on arrive partout à temps. Bien sûr, avec l'aide de Dieu. On ne compte que sur lui. C'est tout.
Ils veulent nous montrer, un peu plus loin, les corps de trois hommes. Ils disent que c'était des combattants ukrainiens tués il y a quelques semaines. Leurs corps sont complètement calcinés. Ils portent des uniformes.
Eux étaient dans la voiture. Ils nous ont attaqués. De là, on les a abattus.
Ils disent combattre pour l'intégrité de la Russie.
Notre commandant en chef, c'est Vladimir Poutine et Ramzan Kadyrov.
Avant de pousser leur cri de ralliement.
Michel Olagaray, pourquoi avoir recours à des soldats tchétchènes? On imagine que ce n'est pas leur guerre, c'est loin la Tchétchénie. Quand on est en Ukraine, la Tchétchénie, c'est loin.
Écoutez, il semble que les armées russes aient engagé peut-être pas leur meilleure force dans ces combats. Ils ont donc fait appel d'abord à leurs 270 nationalités. Donc, vous avez vu qu'à Boutcha, c'était un lieutenant-colonel qui vient de l'extrême-orient russe, hein, qui commandait, je crois. Ouais. Donc, ils font appel à des gens, c'est un peu de la chair à canon. Hein. Il y avait des Tchétchènes aussi dans le nord de Kiev, et ils se sont fait tailler en pièces. Et d'après ce que nous avons cru comprendre, Kadyrov n'était pas vraiment très très heureux que ces hommes qui devaient entrer dans Kiev, vous savez, attaquer une ville, c'est à peu près ce qu'ils font à Mariupol aussi, se soient fait décimer. Ça a été très mal ressenti. Là maintenant, Kadyrov a dû même se mettre en scène pour soi-disant accompagner ses combattants, puisqu'on l'a vu, mais on ne sait pas s'il était à Mariupol, mais on l'a vu.
Kadyrov, c'est le chef de la Tchétchénie.
Kadyrov, c'est le patron de la Tchétchénie, qui est un affilié de
Poutine. Ils ont une réputation de brutalité telle vraie. Il dit, on ne ressent pas la douleur.
C'est de cela dont se sert l'armée russe,
pour ils font
terroriser.
Peur, quoi.
Pour terroriser. Vous savez, les missiles de temps en temps, la pression. Les missiles sur des villes arrières, la terreur, peut-être pas délibérément les massacres auxquels ils se sont livrés, mais cela concourt à cette guerre psychologique que mènent les Russes, qu'ils ont un peu perdu, même carrément perdu aux yeux du monde, parce que quand même là, les médias étaient là et pouvaient tout montrer, mais ça fait partie de leur ADN. Le nouveau patron de la guerre dans le Donbass s'est illustré quand même en Syrie comme étant le boucher d'Alep, etc. Donc ça fait partie d'une stratégie.
Et la question est, est-ce que les viols font partie de la stratégie? En tous les cas, Volodymyr Zelensky dénonce des centaines de viols commis par des soldats russes. Les témoignages affluent dans les villes qui sont reprises par les troupes ukrainiennes. Vous voyez ce sujet de Anaïs Anquet.
En larmes, la gorge serrée, cette femme d'une cinquantaine d'années raconte l'horreur. En mars dernier, alors que son village situé près de Kiev était occupé par l'armée russe, un soldat est entré chez elle pour la violer.
Il m'a conduite dans une maison voisine. Il m'a dit « Déshabille-toi ou je te tue ». Il a commencé à me violer. À ce moment-là, quatre soldats sont entrés. Je me suis dit que j'étais fichue, mais ils l'ont mis dehors.
À son retour, elle a retrouvé son mari tué par balle. Selon elle, il est mort en tentant de la sauver. Elle est persuadée que ses actes ont été commis par des soldats tchétchènes. Ici, comme dans de nombreuses villes libérées de l'occupation russe, ce type de témoignages se multiplie. Selon le président ukrainien, des centaines de femmes, mais aussi des enfants, auraient été violées par des soldats russes.
Des centaines de cas de viol ont été recensés, dont des filles mineures, de très jeunes enfants, et même un bébé. C'est juste effrayant d'en parler maintenant.
Aujourd'hui, l'ONU réclame des enquêtes indépendantes sur ces violences commises par les forces russes et leurs alliés.
Isabelle Lasserre, votre journal, Le Figaro, a rapporté des témoignages glaçants quand on les lisait, des femmes violées devant leurs enfants. Et le président Zelensky parlait de bébés. Et ça se passe en Europe, ça se passe aujourd'hui. Et alors la question est-ce que la chaîne de commandement est au courant? Si oui, c'est épouvantable. Déjà, les faits sont épouvantables.
Ça me rappelle la guerre de Bosnie. Pendant la guerre de Bosnie, il y a eu une politique de viol systématique par les Serbes de Bosnie commis contre les musulmans, les bosniaques. Et il y a eu des milliers, moi j'avais couvert ces histoires, des milliers et des milliers de femmes violées systématiquement. Il y avait des camps de viol. Et c'était vraiment inscrit dans le programme d'éradication des bosniaques, et c'était aussi une volonté de casser la race, en fait, l'ethnie plutôt, de la part des Serbes de Bosnie. Je t'engrosse, donc tu ne seras plus un bosniaque, tu auras du sang serbe. Alors là, ça a l'air d'être un petit peu différent, parce qu'il n'y a pas cette volonté.
Ethnique.
Mais l'armée russe est connue pour... D'abord, l'armée russe, c'est une armée qui subit elle-même des violences pendant le service militaire. Il y a de nombreux cas de viols qui sont répertoriés. Le bizutage est absolument terrible. Il peut même conduire à la mort des jeunes soldats russes. Donc c'est déjà une armée qui est formée à une extrême violence. L'armée russe, il faut voir aussi que sur le terrain, la plupart des soldats commencent à boire à 5h de l'après-midi et à 7h du soir, ils sont à moitié bourrés. Donc beaucoup de témoignages de femmes violées racontent qu'en fait, les soldats rentrent et ils sont ivres morts. Alors c'est le butin de guerre, c'est une volonté de terroriser, une volonté de casser la société, mais ce sont les méthodes de l'armée russe. Depuis toujours, c'était déjà les méthodes de l'armée soviétique. L'armée soviétique, il y a eu je ne sais pas combien de dizaines de milliers de viols à Berlin à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand les Russes avançaient en Europe centrale, les viols étaient commis de manière systématique. Et par ailleurs, ils utilisent pour pratiquer cette méthode de terreur. Alors là, je parle pas forcément des viols, parce qu'on sait pas exactement qui a commis les Tchétchènes ou la milice Wagner a commis des viols. Mais tout ça est une espèce d'enveloppe de terreur et d'atrocité. Il y a les exécutions sommaires, il y a les viols, il y a les tortures, il y a les camps de filtration où on trie visiblement les Ukrainiens qui sont censés pouvoir être russifiés ou redevenir russes, selon, et ceux qui sont trop ukrainiens pour pouvoir être sauvés. Et pour ces basses œuvres, on utilise aussi les Tchétchènes et la milice Wagner, qui sont en fait...
Qui ont moins d'engagement, parce que...
Qui ont beaucoup moins d'engagement, mais qui sont...
Les conscrits russes qui ont 20 ans, ils venaient pour sauver, quoi.
Qui sont en fait des milices censées pouvoir...
Sans foi ni loi.
enfin réaliser les bases œuvres du régime.
Qu'est-ce que ça dit de l'armée russe, Michel Olagareï, que des soldats? On imagine qu'il y a une discipline, qu'il y a une tenue dans l'armée russe, apparemment.
Je souscris totalement à l'analyse de Mme Nasser, bien évidemment. Ce que je voulais mettre en évidence, c'est la différence de culture. C'est-à-dire que nous lisons ces actions-là à notre grille de lecture, qui est complètement différente. Quand on regarde ce que sont les armées démocratiques, pas depuis longtemps, et vous savez, il y a eu beaucoup d'évolutions, hein, y compris dans les pratiques de toutes les armées, mais quand on voit la façon dont nous formons, nous, nos élèves, nos mousses, nos sous-officiers...
Au Mali, nos soldats se conduisent à des années-lumière de ce genre de comportement, rassurez-nous.
Ce que je voulais dire, c'est que nous les formons différemment. Dans les écoles, vous prenez le CIN Saint-Yann-Brest, que je connais particulièrement, il y a des séminaires de formation pour les sous-officiers qui sont la colonne vertébrale des armées françaises. Hein. Il y a à l'école navale que j'ai commandée, il y a des réflexions. On parle d'éthique, de valeurs, on leur apprend peut-être pas à tous, mais enfin, ils savent que dans le code de la défense, il y a aussi une interdiction d'obéir à un ordre illégal. C'est-à-dire qu'un militaire peut très bien ne pas obéir. Alors, à ses risques et périls, c'est très compliqué, bien sûr. Mais il est écrit dans le code de la défense,
d'accord,
on ne doit pas obéir à un ordre illégal.
Alors, l'armée russe, c'est quoi? Alors, c'est pas d'encadrement et de la vodka?
C'est pas d'ordre. De toute façon, au moins ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'y a au minimum pas interdiction de se conduire de cette façon-là. Je ne sais pas s'il y a des ordres spécifiques pour qu'ils se conduisent de cette façon-là, qui serait une vraie politique.
Et il y a un laisser-faire, ce qui ferait que la chaîne de commandement pourrait être tenue responsable de ces exactions.
Et l'encadrement n'est pas aussi rigoureux, aussi spécifique que dans les armées occidentales.
Hein. C'est simplement que les armées occidentales respectent le droit de la guerre. Et qu'il y a des choses, il y a un droit de la guerre, il y a des choses qu'on n'est pas censé faire, on n'est pas censé commettre de crimes contre l'humanité, on n'est pas censé tirer sur des civils, on n'est pas censé violer des femmes, etc. Et les armées occidentales le respectent.
C'est terrible ça quand même pour l'image de l'armée russe, pour l'image de la Russie, Mariam Pirzadeh, parce que ces images, elles bouleversent, elles font le tour du monde. Oui. Ce pays se met au banc des nations de par des exactions de... quelques soldats, parce qu'on ne va évidemment pas, généraliser.
De par la je ne vais pas employer ce terme, mais jusqu'au boutisme et le cynisme de leur président Vladimir Poutine, bien sûr, l'image de l'armée russe. Mais c'est important de le souligner, ça a été souligné juste avant, l'armée russe, ce sont les Tchétchènes, c'est la milice Wagner. La milice Wagner a commis des exactions également en Centrafrique. Le viol est une arme, un butin, une arme de guerre pour plusieurs armées. Donc... pour revenir sur les Russes, bien sûr que ça écorne une image. Et Vladimir Poutine, en fait, face à ses évidences, face à ses preuves, face à ses images, est d'un cynisme le plus total, en disant qu'il y a des mises en scène, en disant que ce n'est pas vrai. Il pourrait peut-être faire un geste en disant on va enquêter.
Il croit à ces mensonges ou il croit que ce sont des fake news ou c'est juste une façade qu'il affirme pour se défendre.
Très difficile de savoir, mais en tout cas, tous les dirigeants qui ont rencontré Vladimir Poutine, François Hollande, Emmanuel Macron, ont un terme pour le qualifier, c'est un menteur.
Il
c'est
passe
un
menteur. Son temps à mentir.
Il passe son temps à mentir et il vous ment dans les yeux.
Ouais.
Donc, impossible de savoir. Bien sûr qu'il doit être au courant. Est-ce qu'il est au courant de tout ce qui se passe? Je ne pense pas. Mais le cynisme, sa réaction cynique après Boutcha, en demandant une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU pour prouver que c'était une mise en scène, pour prouver que ces soldats n'avaient rien à faire là-dedans. Exactement.
Kramatorsk, s'il a dit que c'était l'armée ukrainienne qui avait bombardé le propre peuple ukrainien devant la gare.
C'est exactement ce qu'il avait fait pour la Syrie. Demander au Conseil de sécurité de l'ONU une réunion d'urgence pour pouvoir apporter des preuves contradictoires. Donc c'est d'un cynisme total.
Face à ces exactions de l'armée russe, Joe Biden parle, et à cette chaîne de commandement, Joe Biden parle de génocide. On écoute le président américain.
Oui, j'ai appelé ça un génocide. Il est de plus en plus clair que Poutine essaie d'effacer l'idée même de pouvoir être un Ukrainien. Et les preuves s'accumulent. De plus en plus de preuves ressortent sur les choses horribles que les Russes ont fait en Ukraine. Et nous allons en découvrir davantage. Nous laisserons les avocats au niveau international dire si oui ou non cela peut être qualifié de génocide. Mais pour moi, cela y ressemble bien.
Alors génocide, un terme que réfute ou que ne veut pas employer en tous les cas le président Macron. Il était hier l'invité des 4V. On écoute.
Génocide, ça a un sens, mais je regarde en même temps les choses, les faits. Je veux essayer au maximum de continuer à pouvoir arrêter cette guerre et à rebâtir la paix. Donc je ne suis pas sûr que l'escalade des mots serve la cause.
Et cette prudence, en tous les cas, Volodymyr Zelensky la regrette. Il a réagi hier donc à ces propos d'Emmanuel Macron. On écoute le président ukrainien.
Pas traduit.
Alors, ça n'a pas été traduit, mais je peux vous dire, il a dit, j'ai pas entendu précisément les mots d'Emmanuel Macron, mais si c'est le cas, eh bien évidemment que ça me désole. Isabelle Lasserre, on manipule ce mot génocide un peu comme de la nitroglycérine, parce qu'il est très lourd de sens, il renvoie à la Shoah, il renvoie au sort des Juifs exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça qu'on hésite toujours à l'employer.
Alors, il renvoie à la Shoah, il renvoie au Rwanda et il renvoie au Cambodge. Mais depuis 1995, le mot a été déjà un petit peu changé de sens quand la justice internationale, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, a décrété que les massacres de Srebrenica, cette petite enclave à l'est de la Bosnie, par les Serbes de Bosnie, a été déclaré un génocide. Donc la définition, depuis 1995, a été un petit peu rétrécie, si je peux me...
Mais il y avait une dimension ethnique, comme vous me le faisiez remarquer tout à l'heure.
Il y avait une dimension ethnique, mais le génocide, c'est l'intention de faire disparaître partie d'un peuple d'ailleurs. Et là, Joe Biden, en fait, essaye de mettre un mot. D'ailleurs, il est quand même assez prudent parce qu'il ne dit pas il y a génocide. Il essaye de mettre un mot, génocide, sur deux choses, c'est-à-dire à la fois une intention, parce que depuis à peu près 10 jours, il y a des publications des idéologues du Kremlin, à la fois dans l'agence officielle RIA Novosti et sur les réseaux sociaux, et aussi des publications de l'ancien président russe Dmitri Medvedev, qui parlent de la nécessité, non plus seulement de dénazifier l'Ukraine, mais de la désukrainiser. C'est-à-dire qu'ils sont en train de nier complètement l'identité de l'Ukraine, et ils disent qu'il faut éradiquer l'identité ukrainienne. Ça, c'est une intention. Et ensuite, il y a des faits, c'est-à-dire que de plus en plus, il y a des massacres, des exécutions sommaires, des viols, et ce qui se passe à Boutcha commence à... Enfin, en tout cas, on peut se poser la question. Alors, est-ce que c'est à Joe Biden d'utiliser le mot? C'est effectivement la justice internationale qui dira à la fin si les crimes commis en Ukraine relèvent ou non de génocide, ou s'ils relèvent plutôt de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Ce n'est pas à Joe Biden de le dire, mais on ne peut pas non plus reprocher à Joe Biden d'être assez cash depuis le début et d'essayer de dire ce qui se passe.
Justement, Mariam Pirzadeh, on est étonné par... Joe Biden, il a toujours été, d'ailleurs il a appelé un changement de régime à Moscou, il a toujours été très allant, le plus offensif avec le glaive contre Vladimir Poutine. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle offensive? Parce que pour lui, l'Ukraine, c'est loin. On se demande, il y a une visée intérieure. Que cherche-t-il à...
Plusieurs choses. Déjà, lorsqu'il emploie ce terme de génocide, il l'a dit deux fois. Il le dit dans une usine de carburant dans l'Iowa pour justifier l'inflation, pour justifier la montée du chômage. Il s'adresse à sa population.
Si le gasoline est plus cher pour les Américains, c'est à cause de Poutine.
Exactement. Il dit, la phrase exacte, c'est à cause d'un homme, Vladimir Poutine, qui commet un génocide à l'autre bout du monde. Il faut savoir une chose, c'est que Joe Biden, là, il est en très mauvaise posture. On ne va pas parler de sa vice-présidente, c'est pire, mais il a une cote de popularité qui est très basse. Dans 6 mois, il y a les élections de mi-mandat. Donc, il y a clairement une visée électoraliste pour Joe Biden, donc il s'adresse à sa population. Joe Biden aussi, il est plus libre que nous. Il est plus libre parce qu'il est indépendant énergétiquement, ce qui n'est pas le cas de nous, Européens, et ce qui n'est pas le cas encore plus des Allemands. Nous, ça va, Français, mais les Italiens et les Allemands sont très dépendants du gaz russe. Moi, je trouve que Joe Biden, il cherche à s'illustrer dans ce conflit. Alors, on dit souvent que c'est un gaffeur, mais en fait, ils disent que tout le monde pense tout bas. Et je trouve
ça bien. Il n'a pas peur de Poutine.
Il n'a pas peur de Vladimir Poutine. Et moi, quand je l'entends, je trouve ça bien. Quand il parle de boucher, voilà, il dit les mots, c'est ce sont des mots que tout le monde emploie chez les diplomates, mais personne n'ose dire parce qu'il ne faut pas froisser Vladimir Poutine. Alors peut-être que, oui, il y a une part de rationalité, parce que face à nous, on a un homme qui n'est pas rationnel et qui a d'ailleurs indiqué que si jamais il était visé personnellement, il utilisait l'arme nucléaire.
La bombe atomique.
Donc il ne faut pas oublier que les deux plus grandes puissances nucléaires au monde, c'est les États-Unis et la Russie. Donc effectivement, il se sent un peu moins les mains liées face à nous. Mais quand Emmanuel Macron emploie ce terme, alors on est d'accord, on est dans une période particulière en France, on est dans un contexte électoral, mais attention à la guerre des mots, je veux bâtir la paix. Combien de fois il a parlé à Vladimir Poutine? Combien de fois, quand il s'est rendu à Moscou, ils ont parlé pendant 5 heures, est-ce que la paix est arrivée? Non. Donc est-ce que face à lui, il faut employer la force? Parce qu'on sait que le rapport de force, c'est ce que Vladimir Poutine aime. Voilà, Joe Biden, il a une autre rhétorique. Et d'ailleurs, on remarquera que la Maison-Blanche n'a pas rétropédalé comme la dernière fois, il y a 2 semaines, lorsqu'il avait indiqué qu'il fallait qu'il...
Un changement de régime à Moscou, la Maison-Blanche...
Il a dit cet homme ne peut pas rester au pouvoir. Il l'a traité de boucher. Voilà. Là, la Maison-Blanche avait rétropédalé très vite pour un peu temporiser les propos. Là, il n'y a pas eu de communiqué.
Bon, Michel Olagaray, alors ça veut dire qu'on ne parle plus avec Poutine? Je dis ça parce que vous avez vu même le président... le Premier ministre polonais qui a dit qu'il le compare maintenant à Hitler, Staline et Pol Pot, et il dit on ne négocie pas avec Hitler, donc c'est fini, quoi.
C'est exactement la problématique.
Mais alors qu'est-ce qu'on fait? On va raser Moscou pour se débarrasser, la paix?
Simplement, les mots ont leur force. Et il ne faudrait pas assister à une banalisation, si vous voulez, des mots et des injures. Ensuite, Biden, comme vous l'avez souligné, s'adresse beaucoup à son public intérieur. Lui, il a dit qu'il ne parlerait pas à Poutine.
Il y a beaucoup de d'Américains d'origine polonaise.
Il a dit qu'il ne parlerait pas à Poutine. Or, il se trouve que le président français, qui est le président de l'Union européenne pour l'instant, parle à Poutine et veut vraisemblablement sauvegarder au moins ce fil.
Et car voilà.
Un jour ou l'autre, il faudra parler. Un jour ou l'autre, les armes se tairont ou du moins se calmeront. Et un jour ou l'autre, ça sera la parole à la diplomatie et aux négociations. Le président français est aussi un peu le garant de cette espèce d'unité européenne qui montre ses failles, en particulier celle du Premier ministre polonais. Si tout d'un coup, un président de l'Union européenne se prononçait pour le mot « génocide », il irait dans le sens des extrémistes que sont les Polonais, dont vous savez que leur situation est un peu particulière, en même temps qu'Orban, dans l'Union européenne. Donc il ne faut pas non plus qu'ils s'engouffrent dans des failles ou qu'ils les élargissent. Donc il y a là un problème de mots et il y a un problème de temps, car un jour viendra où il faudra continuer à parler avec Poutine et il faut garder toutes les possibilités de lui parler sans forcément l'injurier, ce qui n'est pas nécessaire.
Isabelle Lasserre, je voyais faire les gros yeux. Est-ce que les Européens, justement, à l'image de ça, ne sont pas en train de se diviser avec d'un côté le Premier ministre polonais qui dit c'est Hitler et de l'autre côté le président allemand qui est persona non grata à Kiev parce qu'on le soupçonne d'avoir été un peu trop proche de Poutine. Du coup, ce qui embarrasse Olaf Scholz, qui voulait aller à Kiev mais qui ne peut pas cautionner cet affront. Le président allemand, hein, il n'a pas le droit d'aller à Kiev, il est trop poutiniste aux yeux de Zelensky.
Sur ce sujet du grand écart qui revient au sein de l'Union européenne explique la position modérée d'Emmanuel Macron. Il faut quand même ajouter que, en fait, si Emmanuel Macron parle à Vladimir Poutine, c'est parce que l'Union européenne a décidé qu'il fallait parler à Vladimir Poutine. Hein. Donc ce n'est pas Emmanuel Macron...
C'est pas une démarche solitaire.
C'est pas une démarche solitaire. Plus, il a eu de nombreuses démarches solitaires, Emmanuel Macron, mais là, en l'occurrence, ce n'est absolument pas le cas. Alors, effectivement, l'unité au début de la guerre de l'Europe avait l'air de se refaire entre l'Est, enfin l'Europe orientale et centrale, qui est tellement sensible à la menace de l'ours russe, et l'Europe de l'Ouest, qui est plutôt sensible à la menace qui vient du Sud. Là, on avait vraiment, pour une fois, une vision commune, unie, etc. Patatras, on recommence à se diviser. Et c'est vrai que Zelensky appuie...
Il ne devient pas embarrassant à force de dire... Il paraît qu'en Ukraine, il y a une expression macronée, ça veut dire du mal de Poutine, mais ne rien faire. C'est le Parisien qui nous a révélé
ça. Il appuie là où ça fait mal, Zelensky. C'est-à-dire qu'il reproche aux Français de ne pas, ne pas livrer suffisamment d'armes. Et il reproche surtout à la France et à l'Allemagne d'être indirectement responsable de la situation, parce qu'en 2008, les deux pays ont mis leur veto à l'ouverture de négociations d'adhésion entre l'OTAN et l'Ukraine et la Géorgie. Et Zelensky dit, en gros, si l'Allemagne et la France n'avaient pas mis à l'époque leur veto, on serait peut-être dans l'OTAN et tout ça ne serait pas arrivé. Quant à l'Allemagne, l'Allemagne est vraiment dans le collimateur de Volodymyr Zelensky, parce que l'Allemagne a quand même eu une politique complaisante vis-à-vis de Poutine pendant très très longtemps, a défendu bec et ongle le gazoduc Nord Stream 2 qui... avant de le mettre entre parenthèses, on a toujours Gerhard Schröder qui n'a toujours pas démissionné de ses positions de directrice au sein de Gazprom. Donc c'est vrai que l'Allemagne est le maillon faible de l'Europe avec l'Italie, et la France est un petit peu ambiguë au milieu. Mais... Et comme la France préside l'Union européenne, c'est sur la France qu'il faut tirer.
Ah, c'est pour ça. Et Mariam Pirzadeh, c'est vrai que comparer Poutine à Hitler, Hitler, on est allé à Berlin, on a rasé Berlin. Est-ce que les Européens de l'Ouest, en tous les cas Emmanuel Macron, a peur d'avoir une position très dure à la Biden ou à la... Parce qu'après, il faut assumer. Il faut assumer. Et ça veut dire, est-ce qu'on a envie d'aller à la castagne avec Poutine ?
Il ne faut pas oublier une chose, c'est que Vladimir Poutine peut rester au pouvoir jusqu'en 2036.
Ouais.
Si les choses se déroulent comme il les a planifiées, il a encore quelques années encore au pouvoir. Wow. Donc il est sur une ligne de crête, évidemment, Emmanuel Macron, parce qu'il faut représenter, on vient de le dire, il y a plusieurs sensibilités en Europe. Il y a une Europe qui voudrait aller vraiment, qui voudrait être beaucoup plus dure, couper le gaz tout de suite, couper tout ce qui peut financer cette guerre en Ukraine. Et on voit bien qu'on ne le fait pas. Je veux dire, cette phrase de Charles Michel la semaine dernière, qui est le président du Conseil européen, qui dit « tôt ou tard, il faudra qu'on réfléchisse à mettre des sanctions sur le gaz et le pétrole, tôt ou tard ». C'est maintenant la guerre, ça fait pratiquement 2 mois. Ça montre à quel point l'Europe est écartelée entre ses besoins énergétiques et sa conscience, parce que ces images, on en parle beaucoup de l'Ukraine, on en parle en France, on en parle partout en Europe, elles choquent les opinions publiques, ces images, ces récits de viol, ces maternités bombardées. Donc, effectivement, c'est une ligne de crête très compliquée pour Emmanuel Macron.
Michel Olagareille, en 2000, on se souvient des lignes rouges François Hollande contre la Syrie, en cas d'arme chimique. Si véritablement, comme ce que soupçonnent les Américains et les Anglais, Vladimir Poutine utilise des armes chimiques à Mariupol, est-ce que là, c'est la ligne rouge qui fait que... Qu'est-ce qu'on fait ? Question plus simple.
La question est posée.
On continue de macroner, comme disent les Ukrainiens, c'est-à-dire on dénonce sans rien faire ?
Ou d'obamaniser, parce que c'est
Obama.
C'est Obama qui a reculé, si vous voulez. Ouais. Pour autant que je le sache, mais vous le confirmerez peut-être, le président français était prêt à y aller.
Ah bah les moteurs.
Ah bah Hollande voulait y aller. Hein. Mais c'était la Syrie en face.
C'était
pas une puissance nucléaire.
Et puis maintenant, je dois dire qu'on y va en responsabilité quand on risque beaucoup plus directement la survie de son peuple et de celle de l'Union européenne. La Syrie, c'était un peu différent. On a pu encaisser le camoufler. Ici, c'est un peu différent. Alors, pour ce qui concerne les armes chimiques, Poutine travaille sur de nombreuses choses. La terreur des populations, le bouton nucléaire. On n'en parle plus depuis quelques temps, mais on en a parlé, puis on l'a montré, jusqu'à ce que Medvedev parle d'existentiel, si vous voulez. Hein. Pour ce qui concerne le chimique, on a vu des approches. Du style, Poutine a dit, il y a des laboratoires en Ukraine qui travaillent sur le chimique. On commence à voir poindre des choses du style, il y a des laboratoires au sein de l'usine Azovstal. Ce qui pourrait éventuellement permettre de dire, eh bien, écoutez, nous, on a envoyé du gaz lacrymogène, etc., parce qu'il y a du chimique là-dedans. Allez démêler le faux du vrai. Il faut voir aussi que dans les armes chimiques...
On peut faire du chimique sans que ça se
voit. Le lacrymogène est une arme chimique.
Ouais.
Le lacrymogène est une arme chimique, mais elle est autorisée. La preuve, nous l'utilisons même en France et dans les pays occidentaux. Donc, il y a là une gradation des zones grises dans lesquelles c'est du chimique non chimique, c'est du chimique létal, c'est du chimique qui attaque le système neuronal, etc. Et il y a une préparation politique. Poutine dit, il y a un labo au sein de l'usine Azovstal. Alors, si un jour, il y a des traces de chimique, et surtout, qui pourra aller le voir ? Car à partir du moment où Mariupol sera russe, quelles seront les commissions d'enquête, quels seront les enquêteurs qui pourront y aller ? Human Rights Watch est interdit en Russie, Amnesty International est interdit en Russie, donc aucune de ces grandes organisations qui sont réputées impartiales ne pourront aller sur le terrain, et il m'étonnerait beaucoup que le procureur de la CPI puisse jamais y mettre les pieds.
La Cour pénale internationale. Isabelle Lasserre, c'est compliqué ces histoires d'escalade là, hein ?
C'est compliqué. bon, Poutine fait toujours la même chose. Hein. En général, il accuse l'adversaire de ce qu'il a,
de ce qu'il va faire,
de ce qu'il a fait ou de ce qu'il prépare. C'est pour ça que cette inquiétude sur les actes chimiques est née de ça, hein, c'est-à-dire de des accusations russes sur des gaz chimiques.
Oui, parce que c'est lui au début qui a dit les Américains.
La question de la ligne rouge, elle est très importante parce que c'était une ligne rouge pour Obama qu'il n'a pas respectée, mais c'était aussi une ligne rouge pour les Français. Aujourd'hui, quand on pose la question aux Français au Quai d'Orsay, ils ne répondent pas.
On veut plus se faire piéger.
Ben, c'est-à-dire qu'on ne peut pas communiquer là-dessus. Et tout dépendra évidemment de la gradation. Si c'est une petite attaque chimique comme ça...
lacrymogène, comme vous disiez.
Il ne se passera rien. Hein, il faut pas, voilà. Alors, si on commence à avoir des images, s'il y a une énorme attaque chimique et comment on commence à avoir les mêmes images qu'on avait dans la Ghouta en Syrie, des grosses attaques
chimiques.
Mais
qu'est-ce qu'on fait ? On envoie l'armée française contre l'armée russe ?
Non, je ne sais pas ce qu'on fait, la question se pose. Et aujourd'hui, il n'y a pas de, réponse. C'est-à-dire qu'on n'en sait rien.
On ne verra pas d'image.
En tout cas, bah, c'est-à-dire qu'on ne verra pas d'image jusque-là. On voit,
il le sait, ça, quand même.
On verra des images.
On ne veut pas cornériser Vladimir Poutine, mais Vladimir Poutine, on imagine, il est quand même... Bon, on avait prétendu que c'était un grand stratège, il nous a démontré que non. Mais quand même, il se dit qu'il ne faut pas non plus qu'il nous cornérise, qu'il nous mette dans une situation où nous n'aurions d'autre choix que d'intervenir.
Est-ce qu'il cherche... Mais de toute façon, je parle sous votre contrôle, vous connaissez bien la Russie, beaucoup disent que Vladimir Poutine n'aime qu'une chose, c'est le rapport de force. Donc, est-ce qu'il nous pousse pas... De toute façon, on sait très bien que cette frontière de co-belligérance, c'était une ligne rouge pour lui, c'est-à-dire que si jamais on fermait le ciel ukrainien, on devenait co-belligérant, donc qui pouvait potentiellement nous attaquer. Bien sûr qu'il surfe sur ces zones grises, il surfe sur ces vides juridiques, mais rappelons-nous, il y a quelque temps, il y a eu des négociations en Turquie. Il y avait notamment le patron de Chelsea,
Abramovich,
qui indiquait qu'il avait été empoisonné, que les négociateurs ukrainiens avaient été empoisonnés. Alors, les Ukrainiens ont démenti. On n'a pas le fin mot de l'histoire. On sait très bien que la manière de fonctionner de Vladimir Poutine, c'est d'empoisonner, un peu de Novichok. On se rappelle de la
Faire réfléchir.
Et tout ça. Il n'a jamais avoué, même si on sait que les regards, on sait très bien qu'il est responsable.
Alors, vous disiez tout à l'heure, il est peut-être là jusqu'en 2036, parce qu'au début, on a eu le secret espoir que Vladimir Poutine tomberait, parce que son entourage voudrait le faire tomber, parce que le peuple se rebellerait contre les sanctions qui sont infligées à la Russie. Bah, justement... Quelle est la réaction du peuple russe ? Est-ce qu'il soutient Vladimir Poutine ? Comment réagit-il à ces sanctions que nous imposons à la Russie depuis plus d'un mois ? Eh bien, Luc Lacroix, et Jacques Dubos sont allés enquêter dans une petite ville à une heure et demie de Moscou. On regarde ce reportage très instructif.
À 1h30 de Moscou, Zvenigorod, une petite ville tranquille où vivent de nombreux retraités. Au centre d'un petit square, un monument aux soldats morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Ici, le soutien à l'opération spéciale se manifeste assez discrètement. Dans l'épicerie d'Anna, essentiellement des produits locaux. Sur une étagère, quelques bouteilles de soda américain, quasiment les seuls produits importés. La bouteille coûte 2,40 €. Ces boissons-là, ça a pas mal augmenté. Je ne sais même pas si je vais en recommander, ça devient trop cher. La bouteille vient du Kazakhstan. Dans la plupart des commerces, l'effet des sanctions se traduit surtout par une hausse des prix. Ah, le café, ça a pas mal augmenté, 15 à 20%. Mais heureusement, il y a de grandes enseignes comme McDonald's qui ont fermé. Du coup, j'ai récupéré une partie de leurs clients. L'enseigne de fast-food a fermé ses portes il y a 3 semaines. Mais certains secteurs souffrent beaucoup plus. Dans ces garages en périphérie de Moscou, entretenir sa voiture devient un luxe. Surtout lorsqu'on est amateur de grosses berlines. Il y en a beaucoup en Russie. L'entretien, ça devient n'importe quoi. Il faut compter 1 000 € pour une vidange sur une allemande de haut de gamme. Des pièces de rechange, on en a encore, mais les prix ont été multipliés par 3 ou 4. Au quotidien, les sanctions pénalisent surtout les classes moyennes supérieures et les jeunes urbains, adeptes d'un mode de vie plus occidental.
Bon, Isabelle Lasserre, est-ce que ça... Ils ont l'air d'être fatalistes, les Russes.
Et oui, en fait, c'est vraiment un wishful thinking, un espoir de occidental de croire que Vladimir Poutine va être renversé par la population du jour au lendemain parce qu'il a une rationalité qui n'est pas la nôtre et qu'il mène une guerre absolument horrible. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ceux qui se sont complètement opposés à lui ont quitté le pays, ils sont chez nous en Europe, et ceux qui restent, soit le soutiennent complètement, soit sont dans le déni total de ce qui se passe, soit ne veulent pas savoir et ne veulent pas voir. Il faut voir que ce pays, quand même, a vécu 70 ans de dictature depuis le régime communiste, que la très brève expérience de la démocratie qu'ils ont eue au début des années 90 avec Boris Eltsine, c'est pas très bien passé parce que c'était le chaos, et donc en fait les Russes n'ont aucune nostalgie de la démocratie, et ils vivent depuis sous le régime poutinien avec une propagande et une répression qui font qu'ils sont complètement dans leur rang, mais ils ne veulent pas voir. Et on oublie toujours, on se dit c'est pas possible, ils vont se soulever, les prix augmentent, mais les Russes ont une résilience particulière, ils ont toujours vécu comme ça. En général, ils sont propriétaires de leur maison, en général ils payent pas le gaz, ils ont leur datcha, ils peuvent cuisiner des légumes pour l'été, etc. Non, mais il y a une économie de guerre et une économie de crise en Russie depuis toujours qui fait qu'ils n'ont pas la même,
je cite votre article,
résistance que nous.
Isabelle Lasserre, l'union sacrée derrière Vladimir Poutine, est-ce qu'ils sont pas en train de rejouer la Seconde Guerre mondiale face à un ennemi, ou même la guerre froide? On a ressuscité le combat de la vie, quoi. On se bat face aux Américains.
Et en fait, c'est deux.
Et c'est la patrie.
C'est deux bons souvenirs. La Seconde Guerre mondiale, c'est la guerre patriotique, c'est la guerre que
on a gagnée,
que l'URSS a gagnée, et c'est en fait cette guerre patriotique qui est exaltée et réécrite d'ailleurs aussi par Vladimir Poutine depuis toujours. Donc, ils ont l'impression de revivre la Seconde Guerre mondiale, enfin la victoire patriotique que Poutine offrira peut-être, enfin pense pouvoir offrir le 9 mai dans les rues.
Face aux Américains.
Comment ?
Mais cette fois face aux Américains, l'Amérique étant incarnée
par
Zelensky.
Vladimir Poutine a une nostalgie de la guerre froide. La guerre froide, c'était le monde divisé en deux avec deux grandes puissances. Et c'était voilà, donc il essaie de reconstituer à la fois l'empire d'avant et de retrouver son statut, son tête-à-tête avec l'autre grande puissance mondiale.
Mariam Pirzadeh, on dit souvent que pour comprendre son ennemi, il faut se mettre dans sa tête, il faut penser comme lui. Je vais en citer un, qu'on ne peut pas soupçonner d'être manichéen, hein, mais c'est Mikhail Gorbatchev. Mmh. Voilà ce qu'il disait en décembre dernier, avant la guerre. Il parlait de l'arrogance et de l'autosatisfaction de l'Occident, des Américains. Ils se sont proclamés vainqueurs de la guerre froide. On a l'impression que la chute de l'URSS, au fond, les Russes l'ont vécu comme une défaite, leur défaite, et le triomphe de leur ennemi, l'Amérique, et que là, au fond, Vladimir Poutine est en train de laver cet affront qu'a été l'Amérique toute puissante post-mur de Berlin.
C'est la défaite de leur modèle, effectivement, qui est arrivée
qui est tombée toute seule,
qui est tombée toute seule, qui s'est complètement effondré sur lui-même. Mais je pense que chez les Russes, il y a un vrai complexe d'infériorité, chez Vladimir Poutine notamment. C'est-à-dire que depuis qu'il est au pouvoir, depuis le début des années 2000, il a une priorité, c'est de rendre la grande puissance à la Russie, de recréer la grande Russie, notamment quand il a obtenu les Jeux Olympiques de Sochi. Enfin, pour lui, c'était une fierté nationale, c'est-à-dire la Russie revenait dans le jeu. Et c'est pour ça qu'il s'est autant impliqué diplomatiquement, géopolitiquement ces dernières années dans les différentes crises, parce qu'il veut peser en fait dans le jeu, il veut s'opposer. Et face à lui, quand on parlait tout à l'heure de Joe Biden, lui il rêve d'une chose, c'est de rencontrer Joe Biden. Au début, on l'a oublié, mais il négociait même pas avec les Européens. Il voulait négocier, il négociait avec les Américains. Lui, ce dont il rêve, c'est cette rencontre avec le grand Satan, comme les appellent les Iraniens, les Américains.
Ah oui. Il a dit que la chute de l'URSS avait été la plus grande catastrophe du XXe siècle. Preuve de.
Il y a une vraie nostalgie chez Vladimir Poutine, effectivement, de cette période.
Michel Lagaraille.
Manifestement, Poutine semble rendre leur fierté à tous ces Russes-là. Et ils ont l'impression, et Gorbatchev le souligne aussi, qu'il y a eu une occasion perdue au moment de la chute, avec l'arrivée d'Eltsine, qui a été une catastrophe vis-à-vis de la fierté même des Russes, voire. Enfin, nous avons tous eu son comportement. Et bien sûr, à ce moment-là, l'Occident, on peut dire que l'Occident a été assez arrogant. le terme arrogant.
Gorbatchev qui l'utilise. L'arrogance et l'autosatisfaction, voilà. Ça leur est monté à la tête.
Et n'oubliez pas que Fukuyama, bon, c'est un auteur de la Rand Corporation, a écrit c'est la fin d'histoire. Alors bien sûr, on caricature. La fin d'histoire, ça veut dire que la chute de l'URSS, c'était l'avènement de la démocratie triomphante où chaque peuple allait être heureux dans une représentation idyllique. Vous avez vu ce qu'il en est advenu, c'est-à-dire un rêve complètement fou. Peu après, Brzezinski, en 97, qui est un conseiller militaire, si vous voulez, de Carter et de président américain, commençait à décrire, car c'est écrit dans son livre Le Grand Échiquier, toute la stratégie que devait mener l'Amérique vis-à-vis de la Russie. Mais d'une Russie sans Poutine, c'est-à-dire qu'il fallait abattre la Russie, qu'il fallait séparer la Russie de l'Ukraine, c'est écrit, hein, mais par des moyens économiques. Et puis, Poutine est arrivé. Et là, vous avez, alors je suis désolé de citer des noms, mais la Rand Corporation en 2019, la même qui avait publié Fukuyama, cette idyllique fin de l'histoire, a publié un rapport dans lequel il est écrit « Comment faire avec un Poutine ?» C'est-à-dire pousser la Russie à avoir une aventure guerrière contre l'Ukraine, c'est écrit, pour l'affaiblir financièrement. Alors, quand vous lisez ça, mais c'est de la littérature ouverte, grande ouverte, quand vous lisez ça, mais que vous lisez aussi ce qu'a dit Poutine en juillet dernier, en fait, on s'aperçoit que presque tout est écrit, mais ce qu'il y a de scandaleux, c'est que ces gens-là vont jusqu'au bout de leurs idées. Ouais. Et c'est sidérant, ça nous sidère parce qu'on lit beaucoup de choses, on n'est jamais sûr que les dirigeants vont le faire. Il y en a qui le font.
Et Isabelle Lasserre, comment on en sort là, de tout ça? Pour revenir au début de l'émission, il est en train de gagner Mariupol. Est-ce qu'il va s'arrêter là? Est-ce qu'on va vers une partition de l'Ukraine? D'ailleurs, un petit peu comme à l'époque soviétique, on avait la RDA, donc l'Allemagne de l'Est sous contrôle russe, et l'Allemagne de l'Ouest libre. Là, on pourrait avoir deux Ukraines, une Ukraine de l'Est, une Ukraine de l'Ouest.
Ouais, je réponds à cette question, mais quand même, je veux quand même ajouter, c'est pas les Américains qui ont décroché l'Ukraine de la Russie, c'est l'Ukraine qui a voulu se libérer de l'Union soviétique et de la dictature communiste et se rapprocher de l'Occident. Voilà. Quant à Brzezinski, il proposait au contraire un statut de neutralité en fait pour l'Ukraine, une neutralité qui veut en partie dire à l'époque le retour sous le giron russe et de Moscou. Sur qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Personne n'en sait rien. Il y a deux solutions.
On s'arrête là, une fois qu'il y a le Donbass.
Il y a deux solutions. Plusieurs solutions d'ailleurs. Ouais. Soit il s'empare de Mariupol et il gagne la bataille du Donbass et il a un gros Donbass et il peut offrir ça en victoire aux Russes, mais je vois mal les Ukrainiens l'accepter. Soit il ne s'arrête pas là et il reprend ses objectifs initiaux qui sont d'aller à Kiev et dans les grandes villes du Nord. Soit il étend la guerre en organisant une grosse cyberattaque dans les pays baltes, par exemple, parce que c'est vrai que les idéologues aujourd'hui dont je parlais tout à l'heure commencent cible l'Europe et avoir ils disent il faut déseuropéaniser l'Ukraine aussi, pas seulement la désukrainiser, et ils commencent en fait à porter le discours de guerre contre l'Europe. Donc où s'arrêtera Vladimir Poutine? Où pourra-t-il jusqu'où pourra-t-il aller? Est-ce que ses forces militaires le suivront jusqu'au bout? Est-ce que ses généraux vont le suivre jusqu'au bout? Est-ce que les généraux vont sonner la fin de la partie un jour et dire ce n'est plus possible?
On parlait tout à l'heure, Mariam Pirzadeh, de la division des Européens. Alors si le coup de théâtre dans 10 jours, Marine Le Pen accède à la présidence de la République, ça change l'équation, ça change d'ailleurs... l'alliance Europe-États-Unis dans ce conflit en Ukraine?
C'est évident, de toute façon, Marine Le Pen n'a jamais vraiment caché son affection et son admiration pour Vladimir Poutine, qui est quand même financé, lui a prêté de l'argent pour sa campagne. Bien sûr, ça va changer beaucoup de choses, déjà pour nous, pour l'état de droit, européen. On va être dans une position... presque, je caricature, mais un peu polonaise ou hongroise au sein de l'Europe, c'est-à-dire d'être tout le temps contre, contre tout, quoi. Ouais. Donc oui, ça va changer les choses, mais c'est dans 10 jours. Là, je pense que la guerre, elle se vit au jour le jour. Et si je peux rajouter quelque chose, Poutine, n'avait pas en tout cas imaginé ça, c'est qu'il est en train de ressusciter l'OTAN. On parle quand même de deux pays comme la Suède et la Finlande qui sont des pays historiquement neutres depuis plusieurs décennies, qui là pourraient intégrer l'OTAN avant la fin de l'été. La Finlande, elle a une frontière avec la Russie de plus de 1000 km.
Et le paradoxe, c'est qu'il a fait cette guerre contre l'OTAN et finalement il a réussi à le renforcer.
Exactement.
Puisqu'effectivement, la Suède et la Finlande, qui étaient neutres, souhaitent entrer dans l'OTAN.
L'opinion publique finnoise était à 20%, voulait intégrer l'OTAN à 20%. Là, ça a triplé en l'espace de deux semaines.
Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. L'Info C'est Clair, disponible gratuitement en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes, je le répète. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne journée, vous restez sur France Info. À demain.